Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre 24 du cycle humain de Sri Aurobindo. Le chapitre 24 s'appelle « L'avènement et le progrès de l'âge spirituel ». Selon Sri Aurobindo, la crise que traverse l'humanité est avant tout une crise évolutive. L'homme, dans cette difficile période de transition entre deux âges, deux cycles humains, doit trouver des solutions nouvelles car celles que lui propose son mental limité et fragmentaire, incapable de saisir les choses dans leur totalité, sont insuffisantes et seul un réel changement de conscience lui permettrait de sortir de cet interminable cycle d'échecs et de faillites dans une société qui menace de s'écrouler sous sa propre masse. Et Sri Aurobindo nous dit que ce changement est possible, qu'il est même inéluctable. Les changements que nous voyons dans le monde aujourd'hui sont intellectuels, moraux, physiques, dans leur idéal et leur intention. La révolution spirituelle attend son heure et pendant ce temps fait surgir des vagues ici et là, jusqu'à ce qu'elles viennent. Le sens des autres changements ne peut pas être compris. Et jusque à ce moment-là, toutes les interprétations des événements présents et toutes les prévisions de l'avenir humain sont des choses vaines. Car la nature de cette révolution, sa puissance et son issue sont ce qui déterminera le prochain cycle de notre humanité. Alors, c'est un texte qui est à la fin de ce livre et ça concerne Sri Aurobindo. C'est Sri Aurobindo qui explique cette fin. Alors, je vais commencer par lire l'avènement et le progrès de l'âge spirituel. Ce serait le commencement nécessaire. Le mental, le milieu mental indispensable à une rénovation vivante de la société humaine en un type plus élevé. Mais en soi, cela n'aboutirait qu'à une timide tentative pour introduire dans la vie humaine et ses institutions quelques reflets de l'esprit manifesté, ou à une tentative vigoureuse peut-être, mais dont le succès resterait partiel et temporaire. Jusqu'à présent, l'humanité n'a jamais tenté d'aller plus loin sur cette voie. Elle n'a jamais tenté d'aller jusqu'au bout de ce petit commencement, excepté dans les limites d'un ordre religieux ou d'une communauté particulière. Et encore, est-ce que, avec ses défauts si sérieux et des limitations si formidables, que l'expérience resterait sans effet et sans rapport avec la vie humaine en général? Si nous nous contentons simplement de professer l'idéal et d'admettre son influence générale sur la vie humaine, l'humanité, dans l'avenir, ne tentera rien de plus. C'est peu, il faut davantage. Certes, un éveil spirituel général est une aspiration générale dans l'humanité. Son plus grand pouvoir moteur nécessaire. Mais le pouvoir d'effectuation doit être plus grand encore. Il faut une recréation dynamique de notre humanité individuelle en un type spirituelle. D'une manière habituelle, l'humanité se contente en effet d'approcher l'idéal avec une aspiration qui reste presque entièrement à l'état d'aspiration et ne l'admet que comme une influence partielle. On ne laisse pas l'idéal modeler la vie tout entière, on lui permet seulement de la colorer plus ou moins. On s'en sert même souvent comme d'un paravent ou d'une excuse pour couvrir des activités qui sont diamétralement opposées à son esprit réel. On crée des institutions avec l'intention de donner corps à cet esprit, mais l'intention reste trop légère et l'on considère comme suffisant le fait d'avoir un idéal et de vivre selon ses institutions. Professer un idéal devient presque une excuse pour ne pas vivre selon l'idéal. L'existence des institutions suffit à dispenser du besoin d'insister sur l'esprit qui les a engendrées. Mais de par sa nature même, la spiritualité est subjective et non mécanique. Elle n'est rien si elle n'est pas vécue intérieurement. Rien si la vie extérieure ne découle pas de cette existence intérieure. Les symboles, les types, les conventions, les idées ne suffisent pas. Un symbole spirituel n'est qu'une étiquette dépourvue de sens si la chose symbolisée n'est pas réalisée en esprit. Une convention spirituelle peut perdre ou répudier son esprit et devenir un mensonge. Il se peut qu'un type spirituel soit un moule temporaire et coule dans la vie spirituelle comme aussi une limitation qui risque de devenir une prison où elle se fossilise et périt. Une idée spirituelle est un pouvoir, mais seulement quand elle est créatrice, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Nous sommes ici devant un principe pragmatique qu'il nous faut élargir et approfondir, à savoir que la vérité est ce que nous créons. Mais en ce sens, d'abord, qu'elle est ce que nous créons en nous-mêmes, c'est-à-dire ce que nous devenons. Sans doute, la vérité spirituelle existe-t-elle éternellement au-delà, indépendante de nous dans les cieux de l'esprit, mais elle n'est d'aucune utilité pour l'humanité ici-bas. Elle ne devient pas vérité de la terre, vérité de la vie, tant qu'elle n'est pas vécue. La perfection divine est toujours là au-dessus de nous. Mais par spiritualité, nous entendons que l'homme devienne divin dans sa conscience et dans ses actes, et qu'intérieurement et extérieurement, il vive la vie divine. Toute signification moindre donnée à ce terme n'en est qu'une expression maladroite et inadéquate ou une imposture. Pareil accomplissement n'est possible que par un changement individuel de chaque vie humaine, comme le reconnaissent les religions subjectives. L'âme collective est seulement la grande source semi-subconsciente de l'existence individuelle et si elle doit prendre une forme psychologique précise ou assumer un nouveau genre de vie collective, cela ne peut se faire que par la croissance formatrice des individus. L'esprit manifesté par la collectivité, le vrai pouvoir de sa vie, seront à l'image de l'esprit et de la vie des individus qui la composent. Une société qui vit par ses institutions et non par ses hommes n'est pas une âme collective, mais une machine. Sa vie devient un produit mécanique et cesse d'être une croissance vivante. Par conséquent, l'avènement d'un âge spirituel doit toujours être précédé par l'apparition d'individus de plus en plus nombreux qui ne seront plus satisfaits de cette existence normale, intellectuelle, vitale et physique de l'homme, et qui percevront qu'une évolution supérieure est le but réel de l'humanité et tenteront de la réaliser en eux-mêmes, d'y conduire les autres et d'en faire le but reconnu de l'espèce. Dans la mesure où ils réussiront et selon le degré auquel ils porteront cette évolution, la potentialité encore irréalisée qu'ils représentent deviendra une possibilité pratique à l'avenir. Dans le passé, les grands élans de spiritualité se traduisaient généralement par l'avènement d'une religion nouvelle d'un type ou d'un autre qui s'efforçait de s'imposer à l'humanité comme un nouvel ordre universel. Or, cette cristallisation s'est toujours avérée, non seulement prématurée mais fausse. Elle a empêché plutôt qu'elle n'a favorisé une réalisation profonde et sérieuse. Certes, le but d'un âge spirituel de l'humanité doit s'accorder au but essentiel des religions subjectives, c'est-à-dire une nouvelle naissance, une nouvelle conscience, une évolution et une ascension de l'homme et une descente de l'esprit dans toutes les parties de son être. Une réorganisation spirituelle de sa vie. Mais si cet effort se laisse limiter par le vieil appareil familier et les moyens imparfaits d'un mouvement religieux, il connaîtra très probablement un nouvel échec. Les mouvements religieux suscitent généralement une vague d'excitation et d'aspiration spirituelle qui se communique à un grand nombre d'individus et se traduit par une élévation temporaire et une formation efficace, en partie spirituelle, en partie morale et en partie dogmatique. Cependant, au bout d'une génération ou deux, ou de quelques générations tout au plus, la vague commence à se retirer et la formation reste. Si le mouvement a été très puissant parce qu'à sa source il y a une grande personnalité spirituelle, il est possible qu'il laisse derrière lui la marque d'une influence centrale et d'une discipline intérieure qui peuvent très bien servir de point de départ à de nouvelles vagues, mais celles-ci seront de moins en moins puissante et de moins en moins durable à mesure que le mouvement s'éloignera de sa source. Car, dans l'intervalle pour relier les fidèles entre eux et en même temps les distinguer du monde extérieur, non, régénéré, un ordre religieux sera mis à grandir, une église, une hiérarchie, un type de vie éthique fixe et non progressif, une collection de dogmes cristallisés, de cérémonies, de rites ostentatoires et de superstitions sanctifiées. Bref, une mécanique compliquée pour le salut de l'humanité. Ainsi, la spiritualité se subordonne de plus en plus à une croyance intellectuelle, à des règles extérieures de conduite et à un rituel de surface. Les motifs supérieurs se subordonnent aux motifs inférieurs et la chose essentielle à des supports, à des instruments, à l'accessoire. La tentative initiale spontanée et puissante qui voulait convertir la vie entière en une existence spirituelle cède la place à un système fixe de croyances et de morale avec une teinte d'émotion spirituelle. Finalement, même cet élément salvateur est dominé par la mécanique extérieure. L'édifice protecteur devient un tombeau. L'Église prend la place de l'esprit et exige que l'on souscrive universellement et formellement à son credo, à son rituel et à son ordre. La vie spirituelle n'est plus pratiquée que par une minorité et encore dans les limites prescrites par leurs croyances et leur ordre figé. La majorité néglige même cet effort limité et se contente de remplacer l'appel d'une vie plus profonde par une piété vigilante ou négligente. Finalement, on s'aperçoit que l'esprit de la religion est devenu un maigre ruisseau obstrué de sable. Au mieux, de temps à autre, le lit desséché de ses conventions est-il brièvement inondé, ce qui explique qu'elle ne soit pas encore devenue un simple souvenir dans les chapitres des fins du temps. Car la nature de l'esprit est une liberté intérieure spacieuse. L'ambition d'une croyance ou d'une forme religieuse particulière à devenir universelle et à s'imposer est contraire à la diversité de la nature humaine, ou pour le moins contraire à l'un des caractères essentiels de l'esprit. Car la nature de l'esprit est une liberté intérieure spacieuse, une vaste unité où chaque homme doit avoir la possibilité de croire selon sa propre nature. En outre, c'est encore une autre source d'échec inévitable. La tendance habituelle de ces religions dogmatiques est de se tourner vers l'au-delà et de faire de la régénération de la vie terrestre un mobile secondaire. Et cette tendance grandit à mesure que s'affaiblit l'espoir originel d'une régénération universelle et immédiate de l'humanité. Par conséquent, même si de nouvelles et de nombreuses vagues spirituelles annoncent sans aucun doute l'avènement d'un âge spirituel, elles doivent cependant modérer leurs prétentions dans le mental collectif de l'espèce et dans celui de ses guides spirituels en reconnaissant que si tout mobile et toute discipline sont valables, nul ne l'est entièrement parce que ce ne sont que des moyens et non l'unique chose à poursuivre. Or, c'est cette unique chose essentielle, à savoir la conversion de la vie entière de l'être humain pour qu'elle se laisse diriger par l'esprit qui doit devenir prépondérante. La clé de l'énigme n'est pas l'ascension de l'homme au ciel, mais plutôt son ascension ici-bas dans l'esprit et la descente de l'esprit dans son humanité ordinaire, une transformation de la nature terrestre, car c'est cela, et non quelques saluts post-mortem, la véritable nouvelle naissance attendue par l'humanité comme le couronnement de sa longue marche obscure et douloureuse. Par conséquent, les individus qui, en cet âge nouveau, feront le plus pour l'avenir de l'humanité seront ceux qui reconnaîtront qu'une évolution spirituelle est la destinée de l'être humain et donc son besoin le plus profond. De même que l'homme animal s'est largement transformé en une humanité mentalisée et même hautement mentalisée à son sommet, de même le type humain actuel doit maintenant et dans l'avenir évoluer, ou se changer, peu importe l'image que nous employons ou la théorie que nous apportons à l'appui, est une humanité spiritualisée, car tel est le besoin de l'espèce et certainement l'intention de la nature. Cette évolution ou cette conversion sera l'idéal et la préoccupation des guides spirituels. Ceux-ci seront relativement indifférents aux croyances et aux formes particulières et laisseront les hommes recourir à celles vers lesquelles ils sont naturellement attirés. Ils tiendront seulement pour essentiel la foi en la conversion spirituelle, l'effort pour la vivre totalement et toutes les connaissances, quelles qu'elles soient, susceptibles de se transmuer en cette vie spirituelle. Ils ne commettront surtout pas l'erreur de croire que ce changement peut s'opérer par un mécanisme et des institutions extérieures. Ils sauront et n'oublieront jamais qu'ils doivent être vécus intérieurement par chaque homme, sinon il ne deviendra jamais une réalité pour l'espèce. Ils accepteront en son sens le plus profond la vision intérieure de l'Orient qui enjoint à l'homme de chercher en lui-même le secret de sa destinée et de son salut. Mais ils reconnaîtront aussi, tout en lui donnant une tournure différente, l'importance qu'à juste titre l'Occident attache à la vie et à cette règle générale de l'existence, faire au mieux de ses connaissances et de ses capacités. Ils ne feront pas de la société une vague toile de fond pour un petit nombre de figures spirituelles lumineuses, ni une plante rigidement clôturée, prisonnière de la terre dont le seul rôle est de produire la fleur stérile et relativement rare d'une spiritualité ascétique. Ils n'accepteront pas la théorie selon laquelle la masse doit obligatoirement et pour toujours demeurer aux échelons inférieurs de la vie, tandis que le seul petit nombre peut s'élever à l'air libre et à la lumière. Au contraire, leur attitude sera celle des grands esprits qui ont lutté pour régénérer la vie terrestre et qui ont gardé leur foi en dépit de tous les échecs précédents. Les échecs sont nécessairement nombreux au commencement. De toute grande et difficile tentative, mais vient un moment où l'expérience des échecs passés peut être mise à profit et où cèdent les portes qui avaient longtemps résisté, ici comme dans toutes les grandes aspirations et les grandes entreprises humaines. Une déclaration a priori d'impossibilité est un signe d'ignorance et de faiblesse. La devise de l'aspirant qui cherche doit être « Solvitur ambulando » de l'inventeur. C'est en allant de l'avant que la difficulté se résout. Un vrai commencement doit avoir lieu, le reste est à l'œuvre du temps, avec ses accomplissements soudains et ses longs et patients labeurs. L'entreprise est aussi vaste que la vie humaine et par conséquent, les individus qui montrent le chemin prendront pour champ d'action la vie humaine tout entière. Ces pionniers considéreront que rien ne leur est étranger, que rien n'est en dehors de leur domaine, car toutes les parties de la vie humaine doivent être embrassées par l'esprit. Non seulement la vie intellectuelle, esthétique, éthique, mais aussi la vie active, vitale et physique. Ils n'auront donc de mépris ou d'aversion pour aucune d'elles, ni pour aucune des activités qui en jaillissent. Ils insisteront pourtant sur un changement spirituel et une transmutation de la forme. Dans chaque pouvoir de notre nature, ils chercheront le moyen de conversion qui leur est propre. Et sachant que le divin est caché en tout, ils affirmeront que tout peut devenir pour l'esprit un moyen de se découvrir lui-même et que tout peut se convertir en un instrument de l'existence divine. Ils verront aussi la grande nécessité de transformer notre mental normal en un mental spirituel pour s'ouvrir puis d'ouvrir celui-ci à ses étendues supérieures dans un mouvement de plus en plus intégral. Car pour que le changement décisif puisse s'accomplir, il faut que la raison intellectuelle trébuchante se convertisse en une intuition précise, lumineuse. Puis, que celle-ci, à son tour, atteigne aux régions supérieures, au surmental, et au supramental, ou gnose. La volonté mentale, faillible et vacillante, doit s'élever pour devenir une volonté intuitive assurée, puis une volonté encore supérieure, divine et gnostique. La douceur psychique, le feu et la lumière de l'âme derrière le cœur. Ridaye guhayam doivent transmuer nos émotions grossières ainsi que les égoïsmes endurcis, les désirs criards de notre nature vitale. Toutes les autres parties de notre être doivent subir une conversion analogue et passer sous la contrainte de la force et de la lumière d'en haut. Les guides de la marche spirituelle partiront de la connaissance et des moyens que l'effort du passé a révélés sur cette voie. Ils s'en serviront, mais ne le prendront pas tel qu'ils sont sans leur subir le profond changement nécessaire. Ils ne se limiteront pas non plus à une connaissance de leur temps, ni ne s'attacheront à des systèmes fixes et stéréotypés ou à des combinaisons de résultats déterminés. Ils suivront la méthode de l'esprit dans la nature, une constante redécouverte, une formulation toujours nouvelle et une synthèse toujours plus large dans le plan mental, une puissante refonte de ses parties les plus profondes par le pouvoir de la vérité. La vérité qui grandit toujours, s'élargit toujours, n'a pas encore entièrement été découverte ou pas encore suffisamment établie autrefois. Telles sont les voies de l'esprit vis-à-vis de nos accomplissements passés quand ils marchent vers les grandeurs de l'avenir. Cette entreprise représente un suprême et difficile labeur, même pour l'individu et combien plus encore pour l'espèce. Il se peut qu'une fois commencée, elle ne progresse pas rapidement et n'atteigne pas la première étape décisive. Peut-être aussi lui faudra-t-il de longs siècles d'efforts avant de pouvoir naître animée par une force permanente. Mais ce n'est pas tout à fait inévitable, car les changements de ce genre dans la nature semblent avoir pour principe une longue et obscure préparation, suivie d'un rassemblement rapide, une précipitation des éléments dans une nouvelle naissance, une conversion brusque, une transformation qui fait figure de miracle par sa lumineuse instantanéité. Et même quand le premier changement décisif aura été accepté, il est certain que l'humanité ne sera plus capable de s'élever tout entière à ce niveau. Il ne peut manquer de se produire une division entre ceux qui sont capables de vivre au niveau spirituel et ceux qui sont seulement capables de vivre dans la lumière qui, depuis ce plan, se répand sur le mental. Et en dessous encore, il se pourrait qu'il reste une grande masse influencée d'en haut, mais pas encore prête à recevoir la lumière. Cela, pourtant, représenterait une première transformation, un commencement qui dépasserait de loin tout ce qui a été accompli jusqu'à présent. Cette hiérarchie n'impliquerait pas, comme dans notre existence vitale actuelle, une domination égoïste, du moins développée par le plus développé. Au contraire, les aînés de la race guideraient leurs frères plus jeunes et travailleraient sans cesse à les élever à un niveau spirituel plus haut et vers des horizons plus vastes. Et pour les guides aussi, l'ascension au premier niveau spirituel ne sera pas la fin de la marche divine, un avènement qui ne laisse rien à accomplir sur la terre. Des niveaux plus élevés restent encore à découvrir au sein du monde supramental. Les anciens poètes védiques le savaient, eux qui parlaient de la vie spirituelle comme d'une ascension constante. Ô toi au sans pouvoir, les prêtres du mot t'escaladent comme une échelle, tandis que le monde de cime en cime apparaît tout ce qui reste à accomplir. Rig Veda 1.10, 1.2, Brahmanastva Satakratu, Yud Vasham Iva Yemire, Yat Sano Sanum Maruat, Buri Apachta Karvatvam. Mais une base, mais une fois, c'est la fin de ce chapitre, mais une fois la base assurée, le reste se révèle et s'épanouit progressivement. L'âme est sûre de son chemin. C'est ce qu'exprimaient encore les anciens chantres védiques. Un état, l'avènement et le progrès de l'âge spirituel. Un état né d'un autre, une enveloppe après l'autre, devient consciente de la connaissance sur les genoux de la mer, l'âme voit. Rig Veda V191 Abhyavashta Prajayate Pravavrevavrishiketa Upashte Maturvi Shashta. Tel est du moins l'espoir le plus haut, le destin possible qui s'offre à la vision humaine. Et c'est cette possibilité que le mental humain, dans son progrès, semble sur le point de développer à nouveau. Si la lumière qui est en train de naître grandit, si le nombre des individus qui cherchent à réaliser cette possibilité en eux-mêmes et dans le monde s'accroît, et s'ils arrivent un peu plus près du vrai chemin, alors l'esprit, qui est ici même en l'homme, comme une divinité encore cachée, comme une lumière et un pouvoir en croissance, deviendra plus totalement dans l'âme de l'humanité et dans les grandes individualités en qui la lumière et le pouvoir sont les plus intenses, tel l'avatar d'une divinité encore jamais vue ni jamais pressentie. Alors s'accomplira le changement préparant la transition qui permettra à la vie humaine et à toutes ces limitations actuelles de s'ouvrir à des horizons plus larges et plus purs. L'évolution terrestre aura pris le grand élan ascendant dans la progression divine et accompli l'étape révélatrice, dont la naissance de l'homme pensant et aspirant au sein de la nature animal n'est qu'une obscure préparation et une promesse lointaine. Sri Aurobindo, Le cycle humain, lu par Ganga Lakshmi à Auroville Radio. Je remercie infiniment Sri Aurobindo pour la redécouverte de l'avènement et du progrès spirituel, de l'âge spirituel que nous devons accomplir, chacun en notre individualité dans l'histoire d'Auroville. Merci Sri Aurobindo, merci Mère, merci Stéphano.